DW, le club de l'auditeur.
Êtes-vous heureux? Un peu, beaucoup, pas du tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le bonheur? On en parle ensemble dans cette édition du Club des auditeurs et internautes, l'émission qui vous donne la parole. Au micro, Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel sur les ondes de la DW. Bienvenue à toutes et à tous. Et un grand bonjour à Juan Carlos de Lima au Pérou, Christian de Moscou en Russie, Ousmane de Lomé au Togo, Esther de Dakar au Sénégal, Imelda d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Davik de Goma en RDC et Anziz de Memboj dans les Grandes Comores. Et puis félicitations à Yacine de Batna et Mourad de Sidi Bel Abbès, tous les deux en Algérie, mais aussi à Comelin de Lomé au Togo et Saïdou de Galim Tinière au Cameroun, puisqu'ils ont fêté ces derniers jours leur anniversaire. Le bonheur, c'est vivre en paix, être heureux et avoir tout ce dont tu as besoin dans ta vie, nous écrit Yannick de Kampala en Ouganda. Pour Bewezima de Lomé au Togo, c'est plutôt avoir la paix du cœur. Il y a bien sûr plusieurs manières d'être heureux, observe-t-il. Moi, je suis heureux quand mon esprit est tranquille. Être heureux, c'est un plaisir que l'on partage avec son entourage. Selon un rapport de l'ONU publié mercredi, la Finlande est pour la deuxième année consécutive le pays le plus heureux du monde, tandis que le Soudan du Sud, en proie à la guerre, occupe la dernière place. Après la Finlande, suivent le Danemark, la Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède ou encore la Nouvelle-Zélande et le Canada, selon le classement 2019 du World Happiness Report, le rapport sur le bonheur dans le monde, dont la sortie a coïncidé avec la Journée mondiale du bonheur, célébrée tous les ans le 20 mars. Ces pays, dont les populations se disent heureuses, se démarquent grâce à la stabilité de leur société. Alors bien sûr, tout est question de perception. La méthodologie consiste d'ailleurs à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10. On note par exemple que malgré la période de turbulence liée au Brexit, le Royaume-Uni a gagné 4 places dans le classement en 2019. En revanche, les États-Unis poursuivent, eux, leur dégringolade et tombent à la 19e place. Le pays qui occupe la dernière position dans ce rapport, c'est donc le Soudan du Sud. Pas très étonnant quand on sait que l'ONU a récemment déclaré que 60% de la population y est menacée par la faim, alors que le pays est en proie à une guerre civile dans laquelle près de 400 000 personnes ont été tuées. En Afrique toujours, la République centrafricaine figure également en bas du classement. Mais dans le monde entier, le sentiment de bonheur a reculé ces dernières années, de façon générale, en corrélation avec une montée de sentiments négatifs, dont l'inquiétude, la tristesse et la colère, particulièrement marquées en Asie et en Afrique, et plus récemment ailleurs. C'est ce qu'observent les auteurs de ce rapport de l'ONU.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?
Vous avez été très nombreux à réagir à la Journée mondiale du bonheur et certains se contentent des choses les plus simples, comme Franck de Lomé au Togo, qui dit se réjouir tout simplement d'une bonne glace et de bonne musique. Séverin de Côte d'Ivoire cite de son côté des événements qui l'ont fait se sentir véritablement heureux, comme son mariage par exemple, ou les anniversaires des membres de sa famille ou amis et connaissances, et encore les fêtes religieuses, le nouvel an. Là, la joie est totale, écrit-il, sans oublier les résultats scolaires de ses enfants. Moi, c'est l'argent qui me rend heureuse, nous écrit carrément Marlène de Yaoundé au Cameroun. Alors, les achats peuvent en effet procurer un sentiment de satisfaction. Pourtant, certaines études montrent que les personnes les plus accros à la consommation ne sont pas les plus heureuses et que ce serait surtout les gens malheureux qui chercheraient à combler un certain vide par la consommation. Pourtant, le secret du bonheur n'est pas dans la possession, mais dans le don, pensait l'écrivain André Gide. Celui qui rend les autres heureux devient heureux. Une idée à laquelle adhère Richard de Tenkodogo au Burkina Faso.
À mon niveau, le bonheur, ça se situe sur deux plans essentiellement. D'abord, savoir que mon prochain ressent le bonheur lui aussi. Et de deux, c'est le respect surtout, le respect de l'autrui. Parce que à mon niveau, quand je respecte mon prochain, en retour, lui aussi, il me doit ce respect-là. Mm-hmm. Et je sais que c'est le bonheur absolu ainsi. Donc j'espère que si chacun de son côté pouvait respecter son prochain, il y aura le bonheur partout sur la terre.
C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il ne peut pas y avoir de bonheur, enfin pas d'harmonie, s'il n'y a pas un respect mutuel entre les humains. Ça, c'est la condition pour se sentir bien dans un climat d'harmonie.
Vraiment, c'est ça l'essentiel. Mm. Parce que seul, on ne peut pas créer le bonheur pour seul. Parce que le bonheur doit baigner dans une société. Il faut être heureux dans une société. Et si on l'est seul dans la société et les autres sont marginalisés, bon, le bonheur là serait éphémère. Mmh. Alors que si c'est dans l'harmonie, ça va durer plus dans le temps. Il y a un proverbe africain qui dit souvent que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui. Donc, c'est mon idéologie ainsi. Et j'espère que beaucoup vont la partager avec moi.
Oui. Donc, le bonheur, ça implique forcément une notion de partage.
Oui, oui, oui. Parce que si tu as un bonheur qui est ancré en toi, que tu n'arrives pas à partager, bon, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Ton bonheur est égoïste, en quelque sorte. Le bonheur, c'est quelque chose qui doit ressortir de l'intérieur de nous-mêmes pour que tout le monde puisse le percevoir.
Et est-ce que le mot bonheur existe d'ailleurs dans votre propre langue ?
Dans ma langue, le bonheur se traduit par l'aisance.
Mais aisance de façon générale ou aisance économique ? Qu'est-ce qu'on entend par aisance ? Parce que c'est assez vaste.
Aisance de façon générale, c'est-à-dire être libre dans la tête, être libre dans ses relations, avoir les moyens à sa disposition. Surtout dans l'Afrique, l'aisance signifie avoir une famille épanouie, c'est-à-dire avoir des champs. Bon, en bref, pour exploiter ces champs, il faut avoir beaucoup de personnes. C'est à cause de ça, il faut de l'harmonie autour de soi pour que le bonheur puisse être ressenti par les autres.
Oui, mais il y a quand même donc une notion d'aisance matérielle pour pouvoir vivre bien.
Oui, vraiment. Ça se sent de nos jours avec les difficultés économiques et tout ce qui va avec la vie, quoi. Il faut aller de gauche à droite pour chercher quelque chose pour amener à la maison et le soir, on dira que bon, en fait, aujourd'hui, tout n'est pas rentré, mais tout le monde sourit parce qu'on a su partager ce bonheur avec tout le reste de la famille. Aujourd'hui, sincèrement, dans le pays, il y a de l'insécurité. Tout le monde se plie sur lui-même pour pouvoir faire certaines choses. Mais je pense que le respect d'autrui doit prévaloir sur tout ce que nous avons.
Bien vrai, évidemment, que sans argent, il est difficile de se sentir épanoui, heureux. Et Tino de Lomé au Togo, par exemple, l'affirme. Chez nous, 90% de la population diront qu'ils ne connaissent pas le bonheur. Il n'y a rien que la misère partout. Je suis docker et les conditions de vie et de travail sont déplorables. Comment peut-on connaître le bonheur dans ces conditions ? S'interroge Tino.
Essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ?
Pour moi, le bonheur consiste à se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est, nous écrit Lamaran de New York, qui conseille néanmoins de se mettre à l'œuvre pour améliorer sa situation. Mahamadou, dans la région de Kaï, au Mali, y travaille aussi, alors que beaucoup d'habitants de cette région tentent de prendre le chemin de l'exil pour trouver le bonheur ailleurs.
Le bonheur, à mon entendement, c'est quand tu te sens à l'aise, la santé y est, et voilà, tout ton environnement, ça va. Et moi, je pense que c'est ça le bonheur. Je pense que ça existe parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, moi j'appelle ça du bonheur. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réussissons, moi j'appelle ça bonheur et je confirme que le mot bonheur existe. Quoi.
À quoi aspirent les gens autour de vous quand ils pensent bonheur ?
Bon, autour de nous, les gens pensent que c'est un objectif qu'il faut le chercher.
Est-ce que c'est plutôt de l'ordre matériel ou est-ce que c'est plutôt spirituel ?
Bon, je dirais qu'il y a les deux. D'abord, le confort est matériel et ça importe beaucoup. Il y a aussi le côté spirituel qui existe aussi. Bon, pas un très grand nombre, mais le côté matériel, voilà.
Le confort matériel est une condition sine qua non ou est-ce qu'on peut être aussi heureux même si on n'a pas vraiment une aisance matérielle ?
Je pense qu'on ne peut pas l'être tant qu'on n'a pas ce confort matériel, tant qu'on n'a pas cette aisance en soi. Même si, bon, on ne demande pas trop, mais il faut au moins un petit confort à soi. C'est un peu ça, oui.
Oui. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tenté de regarder un petit peu ce qu'a le voisin, et si on a plus ou si on a moins? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous empêche justement d'être heureux, peut-être?
Ah bon, surtout chez nous ici, bon, cela existe beaucoup ici, parce que il se peut que avec un voisin à côté de toi ou bien un colocataire avec toi, et il se sent bien, bon, par rapport à toi, toi ça ne va pas, et comme ça. Là, ce cas peut arriver. Mais bon, nous pensons que les gens commencent à comprendre que seulement le bonheur, on le cherche et on le trouve.
Oui. Voilà. Et est-ce que vous, votre métier, vous confère du bonheur, justement? Est-ce que vous avez l'impression de vous épanouir en étant, par exemple, enseignant, en pouvant transmettre un savoir aux jeunes? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporte une certaine satisfaction, que ça contribue à votre bonheur? Ou au contraire, c'est une source de frustration, peut-être?
Non, je dirais que oui, ça apporte beaucoup. Moi, je suis très satisfait de choisir ce métier enseignant, parce qu'aujourd'hui, là où j'enseigne, je suis né là-bas, je suis grandi là-bas, je suis allé faire des études et je suis revenu encore pour donner de mon expérience à mes frères et à mes fils. En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup de satisfaction, parce que voyant le niveau d'éducation qui est très bas ici chez nous, surtout dans ce milieu qui est comme je suis, et je trouve que là, c'est une fierté pour moi, une vraiment satisfaction de le faire, parce que il fallait ça, parce que vous voyez, vous conviendrez avec moi que nos frères qui sont là, qui naissent ici, il y a certains, beaucoup même, qui ne sont pas allés à l'école et ils vont soit noyer en Libye, en Italie. Et il y a tous ces fléaux vraiment qui me donnent envie, qui me donnent le courage d'enseigner et sensibiliser pour que nos frères qui ne sont pas allés à l'école puissent comprendre que là, c'est nous qui devons construire, c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Oui. Quels sont pour vous les critères, le minimum qu'il faut apporter aux populations pour qu'elles soient heureuses, pour qu'elles soient satisfaites?
Bon, je dirais que quand il y a la santé et quand il y a l'éducation, je pense qu'on peut avoir satisfaction. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un coin où il fait chaud, où il ne pleut pas, où il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense que quand on instruit et quand on est en bonne santé, on peut être satisfait. Oui, je pense comme ça. Ouais.
La région de Kaï est considérée comme une chance pour le Mali en raison de la richesse de son sous-sol. Pourtant, c'est elle qui assiste au départ du plus grand nombre de ses ressortissants vers l'exil.
J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux.
Des chercheurs de Harvard aux États-Unis ont mené la plus longue étude sur le bonheur. Ils ont suivi pendant 75 ans les vies de plus de 700 hommes. Tous les deux ans, l'équipe de recherche a appelé ces hommes et leur a posé de nouvelles questions à propos de leur vie. Il en ressort que les personnes qui sont les plus connectées avec leur famille, leurs amis, leur communauté sont les plus heureuses. En plus, elles sont physiquement en meilleure santé et vivent plus longtemps, alors que vivre dans un milieu conflictuel est très mauvais pour la santé. Toujours selon cette enquête, les bonnes relations ne font pas que protéger nos corps, mais elles protègent aussi nos cerveaux. D'où ce conseil de remplacer le temps passé devant nos écrans par du temps passé avec nos proches pour travailler notre bonheur. La famille, c'est ce qui fait le bonheur d'Elisangela du Brésil, qui se dit heureuse chaque fois qu'elle peut partager un moment de détente avec son fils et son mari. C'est le cas aussi de petit Gabriel, originaire du Congo, mais qui vit à Yelivari, en Suède.
Pour moi, le bonheur représente le fait de savoir que j'ai mon épouse tout au long de ma vie et nos deux enfants.
C'est pour vous le plus grand bonheur dans votre vie?
Oui, ça c'est le plus grand bonheur pour moi. La famille représente beaucoup de choses. La famille pour moi, elle passe avant tout. Mon épouse et mes enfants passent avant tout. Quand je sais qu'il y a de l'harmonie dans ma famille, ça m'apporte le plus grand bonheur. Ce qui fait que même quand je rentre à la maison, si j'ai passé une mauvaise journée, le fait de voir mon épouse, mes enfants, ça me redonne encore la force de bien finir ma journée, quoi.
Et donc, vous vivez en Suède. Vous avez conscience que la Suède est, dans toutes les études, l'un des pays où on dit que les gens sont les plus heureux. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez au quotidien autour de vous, des gens souriants?
Oui, je pense que la Suède, pour moi, c'est un pays... Donc on peut bien réussir, un pays où on peut bien réaliser ses projets, un pays où on est tranquille et où on se dit oui, je suis arrivé là où les gens me respectent, là où je gagne ma vie dignement, là où malgré qu'il peut y avoir dans le monde des tracasseries, du racisme, mais on se dit mais ici quand même il y a la dignité humaine, ici quand même on mène sa vie de sa façon, sans dérangement. Et on se dit oui, ça va, ça réussit. Et je me dis que quand je compare avec d'autres qui sont aux États-Unis, qui sont en France, en Belgique, quand je regarde le niveau des vies sociales, comment est-ce que la Suède chouchoute ses habitants, on dit que c'est un pays où le roi vraiment prend soin de ses sujets. C'est vraiment un pays réussi, si on compare avec d'autres pays.
Oui, et donc vous ne regrettez pas votre choix ?
Je ne regrette pas, sauf que pour les uns, peut-être qu'ils ont des difficultés pour s'adapter à la langue, parce qu'il faut d'abord apprendre la langue quand on arrive, mais ça n'a pas été un souci majeur pour moi.
Vous avez réussi à apprendre le suédois, qui n'est pas évident apparemment.
Oui, j'ai réussi à apprendre et je l'ai fait moi-même, sans être à l'école.
Oui, et vous avez réussi à vous intégrer, à trouver du travail et à parler donc au quotidien en suédois, à échanger avec les gens sans problème.
Sans problème, oui, j'ai trouvé des gens qui me font confiance et qui m'aiment.
Et le pays ne vous manque pas trop, même si vous dites que bon, votre bonheur, c'est votre femme et vos enfants, enfin donc votre famille qui vous le procure. Le fait d'être loin de votre pays, ce n'est pas un petit bémol à votre bonheur.
Écoutez, madame, il y a des choses dans la vie que l'on ne peut jamais oublier.
Oui.
Son pays d'origine et sa nourriture. Par exemple, quand tu pars au Congo, au Burundi, au Rwanda, il y a des alimentations. Et dans ces alimentations, tu trouveras beaucoup de blancs. Pourquoi ? Parce que là, ils trouvent leur nourriture, qu'ils ne peuvent pas trouver dans des marchés locaux.
Oui.
Et il y a la langue aussi, la langue maternelle qui te lie à ton pays, que tu ne peux pas oublier. Et tu ne peux pas oublier. Mais que faire quand déjà dans le pays d'où tu viens, il y a cette instabilité politique, il y a cette manque d'assurance, il y a ce manque de sommeil qui est toujours au quotidien et qui t'empêche de retourner dans ce pays. Oui. Vivre dans un pays étranger, pour moi, comme on dit, ce n'est pas un choix, mais c'est venu comme ça.
Malgré tout, vous vous dites un homme heureux.
Oui, malgré tout, je me dis être un homme heureux.
Il est difficile de se sentir heureux quand l'environnement fait souffrir, c'est ce que souligne patient Paul Kinshasa en RDC. Rien ne me rend heureux. Dans un pays potentiellement riche comme le nôtre, le bonheur n'a choisi qu'un seul camp, nos politiciens et hommes au pouvoir. Le chômage est notre lot quotidien, souligne patient Paul. Les moments de bonheur ne sont qu'éphémères, puisque le degré de la souffrance au quotidien affaiblit notre joie au risque de l'emporter sur l'espoir, conclut-il. Un avis que partage Sonny de Moigny dit tout en RDC toujours. Tout le monde aspire à ce bonheur, mais c'est très compliqué dans mon pays, car le bonheur est un rêve pour la plupart de mes concitoyens. Il est vrai que notre pays aux dimensions continentales est confronté à de multiples difficultés. Aujourd'hui, un Congolais peut seulement satisfaire un minimum pour sa vie. Certains mangent une seule fois dans la journée. En bref, le plus grand bonheur est de satisfaire même le besoin de manger. Et Sonny observe lui aussi que le bonheur étant un rêve dans la plupart des pays africains, les jeunes gens partent pour les pays occidentaux à leurs risques et périls, à la recherche d'une vie meilleure.
Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant.
Les vœux formulés par les citoyens du monde sont-ils tous semblables ? Ou le concept de bonheur diffère-t-il quand même selon les cultures ? Éclairage avec Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et historien des religions.
Il y a des différences culturelles très importantes. Ce qu'on appelle nous bonheur en Occident, ça n'a pas du tout le même sens en Asie, où on ne parlera pas forcément de bonheur. En Chine, le mot bonheur n'existe quasiment pas, on parlera plutôt d'équilibre, d'harmonie. Donc c'est vraiment une connotation culturelle forte, le bonheur, très très occidental par rapport à d'autres cultures, où le mot n'a pas le même sens, où il n'existe pas vraiment tel quel, il ne se traduit pas de la même manière. Il y a la joie, il y a la félicité, mais le bonheur tel qu'on l'entend dans la philosophie occidentale, c'est très particulier.
Parce que
même en Occident, il n'y a pas deux philosophes qui sont d'accord sur la définition.
Bien sûr.
J'ai un peu l'impression quand même qu'un peu partout, on recherche la prospérité, la santé, enfin, les mêmes éléments fondamentaux sont pareils partout. Hein. Après, on va plus insister en Occident sur l'amour, sur des choses comme ça, qui ne sont pas tellement des éléments dans les sociétés traditionnelles sur lesquels on insiste, parce que ça fait partie du quotidien de la vie. Et à la limite, ce n'est pas tellement lié pour les gens au sort. Vous voyez, ce que les gens peuvent se souhaiter peut-être dans des sociétés traditionnelles, c'est peut-être plus ce qui est lié aux aléas de la vie. la santé, la maladie, et puis la prospérité, c'est-à-dire avoir un peu de chance dans les affaires,
vous
voyez.
Mais vous parliez tout à l'heure de la Chine, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une évolution en fonction des générations, parce que vous parlez par exemple des religions des sages en Asie, du bouddhisme, ainsi de suite, de la sagesse, de cette sorte d'équilibre, de recul, et je me demandais s'il n'y a pas, avec l'évolution des générations, un fossé quand même par rapport à ces philosophies-là, et ce monde, par exemple aussi au Japon, du toujours plus, de la société de consommation à tout
oui,
craint, du travail.
C'est compliqué parce qu'on a aussi le phénomène inverse. Aujourd'hui en Chine, il y a des jeunes générations qui reviennent vers le bouddhisme, vers la sagesse, alors que leurs parents étaient beaucoup plus dans la recherche uniquement du
matérialisme.
Matérialisme, donc c'est des vagues. Il y a des générations qui sont comme ça très orientées. On voit très très bien qu'actuellement, même au Japon, c'est un peu pareil. Vous avez eu toute une vague effectivement très matérialiste dans les années 70-80. Et puis là, on voit qu'il y a un intérêt nouveau pour la spiritualité, le bouddhisme, on y revient un peu. Donc c'est des vagues qui se succèdent. Il y a toujours un retour du balancier. On va vers plus de matérialisme et après vers plus de spiritualité. Et ça, on le voit un peu partout. Mais c'est très tiraillé. De même qu'en Russie. En Russie, c'est à la fois, ils sont ultra matérialistes et en même temps, ils sont tous à se ruer dans les églises orthodoxes. Les sectes sont légions. Donc vous voyez, les deux vont un peu de pair. On ne peut pas dire que c'est qu'un phénomène générationnel.
Est-ce que les religions jouent toujours un aussi grand rôle? Parce que bon, on voit qu'il y a une certaine désaffection, par exemple, dans nos contrées à nous, des églises qui se vident, des églises chrétiennes. Mais par contre, une montée du fondamentalisme musulman, par exemple. Alors, quel est le rôle que joue encore la religion, justement, dans cette conception de la vie, des aspirations des uns et des autres?
En fait, ça dépend des aires culturelles, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en Europe, effectivement, la religion n'a plus du tout d'impact dans ça. Mais par contre, vous avez d'autres régions du monde où la religion reste extrêmement présente. En Inde, par exemple, elle est très présente. Dans le monde musulman, elle est très présente. La religion, c'est un marqueur essentiel de toute société traditionnelle. Et il n'y a que finalement l'Occident qui est sorti de ça, et puis on peut dire les anciens pays communistes. Parce que le communisme a sorti brutalement les sociétés de la religion, et la modernité a dissous la religion. Mais pour le reste, c'est-à-dire les deux tiers de l'humanité, les gens sont quand même globalement très tenus encore dans des rituels religieux qui ponctuent la vie.
Et donc, ce facteur religion dans les aspirations des gens pour modeler, pour envisager leur vie, les perspectives d'avenir, ainsi de suite, vous pensez qu'elles sont encore extrêmement différentes d'un continent à l'autre, que malgré la mondialisation, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment... Bon, comme vous disiez un petit peu quand même au début, évidemment, l'aspiration, quand on se souhaite bonne année, c'est la prospérité, la santé, tout ça. Mais il y a encore des différences très, très fortes.
Oui, il y a encore des différences fortes. Par exemple, dans le judaïsme, le bonheur, il est essentiellement terrestre. C'est la réussite terrestre, c'est l'épanouissement, la joie dans le corps. Alors que dans le christianisme, la théologie chrétienne a placé le bonheur dans l'au-delà. Donc c'est essentiellement, finalement, le salut qui compte. Et c'est une notion qui n'est pas juive du tout. Et ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui ont plutôt une tradition dans laquelle, finalement, on ne lie pas tellement la félicité, le bonheur avec cette vie-là. C'est plutôt l'idée que, bon, il y a des épreuves, il y a des choses difficiles, mais que la vraie félicité, c'est après la mort. Ça, c'est une vraie différence culturelle. Maintenant, ça tend à s'amenuiser, non pas à cause de la mondialisation, mais surtout à cause de l'individualisation et de la sortie du religieux. Ce qui fait que, du coup, finalement, aujourd'hui, le christianisme est en train de perdre de plus en plus sa dimension eschatologique tournée vers l'au-delà et ressemble de plus en plus au judaïsme, c'est-à-dire que les chrétiens, ils ont surtout envie d'être heureux ici et maintenant. Ou le bouddhisme, on pourrait dire la même chose. Parce que le bouddhisme est une religion du salut aussi, dans lequel il y a toute une ascèse, une discipline de vie très importante et très rigoureuse en vue d'atteindre une libération pour ne plus se réincarner. Donc on place quand même le bonheur, vous voyez, dans une dimension très élevée. Et ben, dans les sociétés bouddhistes aujourd'hui modernes, beaucoup plus individualistes, etc. Et tout, les gens cherchent simplement à être bien ici et maintenant. Vous voyez.
Oui. Mais vous parliez par exemple du judaïsme et de la chrétienté, mais dans le monde musulman, on pense beaucoup aussi à l'au-delà et à préparer son salut dans une vie.
C'est un équilibre entre les deux. Il y a à la fois cette idée du salut, oui. Absolument, c'est-à-dire que ce qui compte, le vrai paradis, il est au-delà, il est après la mort, comme les chrétiens. Et en même temps, les musulmans ont ce côté concret, très attaché au bonheur terrestre, au plaisir, etc. Donc c'est entre les deux. Puis la Chine, c'est encore un autre monde. La Chine, il n'y a pas du tout de salut, d'au-delà, etc. C'est vraiment la religion la plus concrète. Là, on est complètement dans l'équilibre. Ce qu'il faut, c'est trouver une vie harmonieuse. Ne pas être dans les excès, ne pas être dans un extrême. Toujours équilibrer les choses. Donc un équilibre entre le corps et l'esprit. Enfin, c'est toujours la relation d'harmonie entre des contraires. Et donc, c'est une société où le but recherché, c'est l'harmonie.
Et ce concept est toujours valable dans la société d'aujourd'hui parce que c'est une société, évidemment, en pleine expansion et explosion.
C'est dire c'est valable parce que ça marque profondément les gens, mais c'est vécu complètement autrement. C'est sûr qu'aujourd'hui, les Chinois, ils sont en recherche essentielle de profit matériel. Mais à l'intérieur de ça, ils sont quand même marqués par les notions du confucianisme et du taoïsme qui recherchent toujours cet équilibre. Donc, je pense que ça peut jouer sur d'autres plans, mais ce n'est pas effectivement quelque chose d'aussi fort que ça a pu être dans le passé. Mais au fond, je pense que ce qui domine de plus en plus dans le monde entier, à cause, alors là, vous avez raison, de la mondialisation économique de l'Occident, du bien-être, du confort matériel, etc. et tout, c'est la recherche du bien-être matériel, c'est la recherche du confort, c'est la recherche d'avoir une bonne santé, de vivre le plus longtemps possible avec le plus de moyens possible.
On le veut, le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con, le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à cette émission ou à nous faire part de votre expérience ou à me suggérer un thème qui retient votre attention. Envoyez-moi par exemple un mail. Mon adresse, c'est mireille.drone@dw.com. Pour communiquer avec nous via WhatsApp, vous pouvez vous inscrire gratuitement en tapant dw.com/WhatsApp. Cela vous permettra d'y laisser des messages parlés ou écrits et en plus vous recevrez nos informations. Et puis notez encore que vous pouvez retrouver cette émission comme tous les programmes du service en français de la Deutsche Welle sur notre site internet. Notre adresse dw.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez aussi les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très bientôt de vos nouvelles, j'espère. Merci de votre fidélité et excellent week-end à tous. Au revoir.